Redby, Le secret des Vikings ou la saga Cité d'Arsène Lupin. À Cocotte, à Plume et à Bruissement, avec admiration et affection. Chapitre 1. Le gros homme et la jolie jeune femme. Chapitre 2. Le tapis vert. Chapitre 3. L'Institut de recherche médiévale. Chapitre 4. Sur la piste d'Éric le Rouge. Chapitre 5. Le piège. Chapitre 6. Le lion d'Alexandria. Chapitre 7. Harry, ATN, ALX. Chapitre 8. Le grand secret. Chapitre 1. Le gros homme et la jolie jeune femme. Quand on a 35 ans, qu'on est doté d'une intelligence hors du commun, de muscles d'acier, de 4 puissantes limousines et d'une organisation frauduleuse internationale, et que l'on possède en outre les deux secrets des rois de France, que peut-on demander de plus ? Le baron Maxime de Chaverny se posait justement cette question lorsque son regard pénétra dans la boutique du libraire Vivien, au numéro 10 du boulevard Saint-Germain. Une jeune femme grande et blonde, d'une rare beauté, souriait et contemplait avec admiration un petit homme rondelé, aux cheveux clairs sur un large front dégarni. Sans aucune hésitation, le baron de Chaverny s'écarta délibérément de sa route et entra dans la petite boutique. Le gros monsieur semblait hésiter. « Cela fait quand même 11 gros volumes. Nous n'avons pas tellement de place. » Maxime de Chaverny remarqua le fort accent nordique du petit homme. La jeune femme sourit, se courba gracieusement et donna un léger baiser sur le front dégarni. « Ne t'inquiète pas, mon papa chéri. Je ne prendrai que les vêtements nécessaires et il y aura de la place pour tous tes livres. Et puis, une traversée de 15 jours, tu risques de t'ennuyer et la lecture te fera le plus grand bien. » Sans attendre la réponse, elle fit signe au libraire d'emballer les ouvrages posés sur le comptoir et le pria de les faire livrer. Maxime faisait mine de fureter entre les livres et choisit finalement un ouvrage intitulé « Histoire des Vikings ». Il paya son achat et sortit sur les talons des deux visiteurs. Ces derniers déambulaient sur le boulevard et conversaient de leur prochain voyage. La jeune femme, qui s'exprimait dans un français sans accent, expliquait. « Donc, nous prenons le train mardi matin pour le Havre et notre bateau quitte le port le soir à 22h. Nous serons à Boston le lundi. » Maxime en savait assez et il détourna son chemin, non sans avoir jeté un dernier regard à la ravissante inconnue. En quelques minutes, il avait traversé la Seine et se dirigeait à grands pas vers la rue de Rivoli, où se tenait son agence de voyage préférée. Il en ressortait, un quart d'heure plus tard, muni d'un billet de train pour le Havre et de tous les documents nécessaires pour l'embarquement sur le paquebot Le Liberté, qui faisait l'aller-retour avec Boston. Maxime de Chaverny se trouvait à un moment de la vie où toutes les possibilités sont ouvertes. Il n'avait pas de projet précis pour le proche avenir et sa dernière bataille datait déjà de près de 3 semaines. Il menait donc une vie oisive, se levant tard, déjeunant dans les meilleurs restaurants de la ville et passant le reste de ses journées au cercle des cavaliers lombards dont il était le président fondateur. Les 4 journées suivantes se déroulèrent sans incident notoire. Maxime de Chaverny avait toujours 2 ou 3 valises prêtes pour le cas où un voyage urgent s'avérerait nécessaire. Dans le cas présent, rien ne l'obligeait à entreprendre un tel déplacement, si ce n'est l'envie de revoir cette silhouette et ce sourire angélique dont l'image l'accompagnait partout. Il ne chercha pas à savoir qui étaient ces 2 personnages, ni dans quel but ils se rendaient en Amérique. Le dimanche et le lundi, il donna quelques ordres par téléphone à ses subordonnés et annonça qu'il partait en voyage pour une période indéterminée. La consigne stipulait le calme plat et l'arrêt momentané de toute activité, aussi lucrative qu'elle soit. Le mardi matin, à 9 heures, il s'installait au buffet de la gare du Nord, devant un copieux petit déjeuner. Il consacra la petite heure qui lui restait avant le départ à scruter les voyageurs et les passants qui défilaient devant lui, leurs valises et leurs sacs à la main, qui à pas lents et hésitants, qui au galop. Comme à son habitude, Maxime enregistrait dans sa mémoire tous les visages et toutes les attitudes. Il s'amusait à regarder les gens qui s'épiaient les uns les autres à la dérobée, ceux qui suivaient les autres en faisant semblant de regarder ailleurs, et ceux qui jetaient des regards furtifs derrière eux pour s'assurer qu'on ne les suivait pas. La vie l'amusait, surtout celle des autres, et surtout quand elle s'agrémentait d'un peu de fausseté, de cachotterie et de mauvaise foi. Il savait que sa vie à lui allait bientôt changer du tout au tout. 15 ans d'une vie d'aventurier, 15 ans de batailles formidables et de victoires inouïes, tout cela semblait trop beau et il faudrait penser à arrêter cette course folle après la réussite et la richesse. Il ne regrettait rien, ni les vols qualifiés, ni les fraudes, ni les malversations financières. Seulement, il se sentait un besoin formidable de faire le bien, d'aider et d'aimer sans raison et sans contrepartie. En fait, cette pensée nouvelle l'avait amené ici, dans cette gare, d'où il partait vers l'inconnu. Soudain, l'apparition éclaira la salle des départs. Ce fut comme un éclat de soleil au milieu de la nuit, un feu d'artifice dans les ténèbres. Elle marchait, légère et gracieuse, et passait devant lui, belle comme... Maxime ne trouvait pas les mots. Il sourit en voyant le papa chéri qui trottinait piteusement à côté de sa ravissante héritière. Maxime quitta sa place et, comme bien d'autres, se mit en marche au même pas que les deux voyageurs, mais à bonne distance. Ils consultèrent leurs billets et montèrent en voiture. Maxime fit de même et se désola de constater que son billet indiquait un autre wagon que celui de sa nouvelle idole. Il haussa les épaules et se dirigea vers sa voiture. « Bah, j'aurai encore 15 jours de traversée pour faire sa connaissance. Ce sera bien le diable si je n'arrive pas à me faire une petite place dans son cœur d'ici l'arrivée à Boston. » Le baron de Chaverny dîna dans un petit restaurant du port après avoir fait livrer sa valise au bureau de la compagnie frétant le Liberté. La valise étant à double fond, il n'y avait rien à craindre pour l'attirail de camouflage qu'elle contenait. D'ailleurs, si le baron de Chaverny se trouvait dans l'impossibilité d'embarquer à bord, M. Horace Velmont ou Raoul d'Andrézy le feraient volontiers à sa place. N'oublions pas que Maxime était un homme de ressources qui entrait par la cheminée quand on l'avait mis à la porte une fois la fenêtre barricadée. À 10 heures du soir de ce mémorable mardi du début juillet 1808, le Liberté levait l'ancre, emportant avec lui la belle jeune femme, le gros petit papa chéri et le baron amoureux. Chapitre 2. Le tapis vert. Quand Arsène Lupin me raconta l'aventure quelques 20 ans plus tard, je remarquai qu'une profonde émotion lui serrait la gorge. Je crois que je n'ai jamais tant espéré revoir un visage et sentir une présence que pendant les 2 premières journées de la traversée de l'Atlantique cette année-là. Cette femme occupe dans ma vie et dans mon cœur une place toute spéciale et je crois que je la regrette encore. Je la rencontre de temps en temps. Elle me reconnaît toujours et toujours elle me fait un petit signe de la main et elle disparaît, son joli sourire aux lèvres. Donc, 2 jours s'écoulèrent sans même que Maxime ne puisse apercevoir l'objet de sa passion, même de loin. Il furetait sur le pont, s'asseyait au bar, lisait des brochures dans le grand salon du paquebot et prenait ses repas aux heures les plus normales possibles. Rien. Ni belle jeune femme, ni petit homme rondelé. Le second soir, après le dîner, Maxime traîna sa tristesse et sa déception vers le casino flottant. Des gens de toutes conditions jouaient là au baccarat, au poker et à la roulette. Au milieu de la salle, on jouait au Boston, tout autour d'une grande table carrée. Quelle ne fut pas la surprise de notre héros lorsqu'il aperçut le petit homme debout devant la table, le regard fixe, l'air absent. Il avait les yeux baissés vers le tapis vert et contemplait les deux dés qui roulaient de gauche et de droite. Les parieurs intrépides mettaient leur mise, annonçant des modes de code que l'homme ne semblait pas même entendre. Le meneur de jeu jetait les dés et un employé en costume sombre ratissait les mises en direction des joueurs gagnants. Maxime de Chaverny observait la scène avec un étonnement mélangé d'un sentiment d'amusement. Il était clair que le papa chéri n'avait aucune expérience du jeu et que ce démon ne l'avait jamais tenu entre ses griffes. Mais apparemment, il y a un commencement à tout. Imitant un Hercule en habit qui venait d'annoncer une mise, le petit homme tira une liasse de billets de son veston et la jeta sur le tapis en annonçant les chiffres 6 et 4. Il perdit. Le gros Hercule ramassa la mise. On joua à nouveau. Le petit homme jeta une nouvelle liasse de billets en annonçant son choix. Il perdit encore. Le jeu continuait. Le petit homme rondelé restait là, debout et inerte, le front et les tempes couverts d'une sueur abondante. Maxime eut le sentiment qu'il pleurait. Le gros Hercule dut remarquer la détresse du perdant, car il déclara d'une voix forte, en français et avec un fort accent américain, « Monsieur, je vais être beau joueur avec vous. Vous pouvez encore mettre 2 000 francs sur parole. Qui sait ?» Le petit homme semblait abasourdi. Il ne répondit pas à l'appel. Il ne bougeait pas, debout, les bras ballants. Soudain, il sentit une main qui touchait la sienne. Cette main lui refermait les doigts sur une liasse de papier et, d'une voix basse et impérieuse, lui enjoignait « Dites, tout sur le tapis, sur le 4 et le 5 !» Dominé par la pression de la main et le son de la voix, l'homme annonça sans sembler comprendre le sens de ses propres paroles « Tout sur le tapis, sur le 4 et le 5 !» Un murmure de surprise et d'approbation suivit cette annonce. Le meneur de jeu jeta les dés. Le 4 et le 5 sortirent. Le murmure s'éleva plus haut encore autour de la table. Le râteau attira vers le gros monsieur des liasses de francs et de dollars. Le gros Hercule lâcha un juron, tourna les talons et disparut. Les autres joueurs haussèrent les épaules en souriant et quittèrent la table. Maxime posa doucement la main sur l'épaule du papa chéri. « Monsieur, ramassez votre argent et oubliez ce mauvais rêve. Mais pour l'amour du ciel, ne commettez plus cette erreur. Autour du tapis vert, on ne réussit qu'une fois dans la vie, croyez-moi. » L'autre sembla enfin sortir de sa torpeur et tourna la tête vers son interlocuteur. Il commençait à comprendre vaguement que ce dernier lui avait sauvé la mise au double sens du terme. Il réfléchit longuement puis déclara « Monsieur, je suis votre obligé. Vous m'avez sauvé de la ruine et du déshonneur. » Maxime ne put réprimer un sourire. Il adorait ce genre de phrase qui semblait sortir tout droit de romans d'aventures à bon marché. « Je n'ai fait que mon devoir d'honnête homme, monsieur. Le reste, vous le devez à votre bonne étoile. »« Combien vous dois-je pour ce service incalculable, monsieur ?»« Ne me faites pas un tel affront, je vous en prie. Que cela reste entre nous et n'en parlons plus. »« Mais ces billets !» Maxime soupira profondément et d'une voix triste assura. « Une vie entière ne suffirait pas à dépenser l'énorme fortune dont je dispose. » Acceptez de moi cette petite contribution à votre rétablissement financier et oublions cet incident. À charge de revanche, monsieur. Monsieur Chaverny, Maxime de Chaverny, pour vous servir. Monsieur Nils Jürgensen. Au plaisir, monsieur Jürgensen. Bien obligé, monsieur de Chaverny. Une cordiale poignée de main ratifia le parfait accord et les deux hommes s'apprêtaient à quitter la salle lorsque Maxime prononça tout bas. « J'ai une requête urgente, monsieur. Faites comme si nous nous connaissions de longue date et ne vous étonnez pas de ce que je vais faire quand nous sortirons de la salle de jeu. » Le petit homme comprenait que quelque chose qui dépassait son entendement se produisait en ce moment. Cependant, l'émotion l'empêchait de poser des questions ou de s'opposer à la demande de Chaverny. Celui-ci passa son bras sous le sien et l'enleva vers la sortie. Comme ils arrivaient à la porte, Maxime s'effaça, fit une petite courbette et laissa passer M. Jürgensen devant lui avant de reprendre son bras. « Si l'on vous pose la moindre question, je suis votre secrétaire, votre factotum. N'oubliez pas. »«
Je ne comprends pas trop, mais si vous insistez... »«
J'insiste. » Ils se séparèrent, chacun se dirigeant vers sa cabine. Rentré chez lui, Maxime se frotta les mains avec satisfaction. «
Mon bon Lupin, tu fais des progrès. Te voilà presque dans la place. Tu as conquis le cœur du papa, à bientôt celui de la fille. Mais fais attention aux deux Hercules, camarade. Ces deux-là n'y vont pas par quatre chemins. J'ai d'ailleurs comme l'impression qu'ils font des heures supplémentaires au casino flottant en plus de leur labeur quotidien. Je me demande d'ailleurs qui donc se cache derrière ces deux messieurs peu fréquentables.
L'avenir te le dira, mon vieux Lupin. À présent, va te coucher et fais de beaux rêves.
Nous avons bien dit deux Hercules et non un, car ils étaient bien deux à se faire des signes de connivence des deux côtés de la grande table. Alors que Maxime se félicitait de ses petits talents, les deux acolytes se disputaient comme des chiffonniers.
« Incapable, c'est de ta faute !»«
Comment pouvais-je savoir qu'il avait encore de l'argent et qu'il allait miser sur tout le tapis ?»
« On prend ses renseignements avant de jouer son va-tout, idiot !»«
Non, non, il y a autre chose. J'ai repéré un drôle de type au casino. Un comte quelque chose. »«
Ah, le baron. Il était là aussi, celui-là. Je ne l'avais pas vu. Tiens, c'est bizarre. »«
Oui, il a dit quelque chose à Jürgensen et l'autre a joué et gagné. Il était comme hypnotisé. »
Il va falloir l'avoir à l'œil, ce client-là. Il ne me dit rien qui vaille. En attendant, retourne au casino demain et récupère ce que tu as si bêtement perdu. »
La petite manœuvre de Maxime eut un effet miraculeux sur le développement de ses affaires de cœur. À 10 heures, il recevait un mot du docteur Niels Jürgensen, le priant de bien vouloir s'asseoir à sa table pour le déjeuner. À 12:30, le baron faisait son entrée dans la salle à manger et se dirigeait tout droit vers la petite table dressée près d'une baie vitrée d'où l'on pouvait distinguer un ciel d'un bleu ardent sur une mer d'azur. Elle était là, radieuse.
« Gerta, je te présente mon sauveur, monsieur de Chaverny. »
Sans même laisser à Maxime le temps d'exprimer le moindre sentiment, il se lança dans un récit très détaillé d'où il ressortait que le démon du jeu l'avait séduite à son insu. Chaverny avait opéré un vrai miracle et le docteur ne savait comment payer sa dette à ce chevalier salutaire. Gerta déclara calmement.
« Monsieur de Chaverny n'est certainement pas tombé du ciel, papa chéri. Figure-toi que je l'avais déjà remarqué chez le libraire où nous nous sommes arrêtés avant notre départ. »
Maxime ne se laissait pas surprendre aisément. Mais pour le coup, il faillit laisser tomber sa fourchette. Il regarda le joli visage et les grands yeux noirs et veloutés qu'il observait.
« Mademoiselle, je vous assure... »«
Que vous étiez là par hasard, je n'en doute pas. Est-ce aussi le hasard qui vous a amené sur ce bateau ?»«
Vous ne manquez pas d'un rare sens d'observation. Vous feriez un excellent détective. »«
Vous pensez vraiment ?» « Enfin, laissons cela. Je me joins à mon père pour vous exprimer ma profonde gratitude pour ce que vous avez fait. Cette fâcheuse histoire aurait gâché le plaisir que nous avons de faire ce voyage en Amérique. »
Maxime saisit la perche qu'elle lui tendait.
« Qu'est-ce qui vous amène à Boston en ce début d'été ?»
Le père expliqua. « Je suis spécialisé dans l'histoire et la littérature scandinave. » J'ai reçu une requête d'un institut de recherche américain qui me demande d'étudier une inscription bizarre qui figure sur une pierre tombale. Ils n'ont trouvé personne sur place pour déchiffrer la chose. Ils se sont adressés à moi, pensant qu'il s'agissait de lettres runiques. Il tira de sa poche une lettre tapée à la machine à écrire et contournée dans un français assez approximatif. L'expéditeur se nommait Robert Fitzgerald, président de l'Institut de recherche médiévale à Saint-Paul, dans l'État du Minnesota.
On y avait joint un chèque de $500 qui devait couvrir les frais du voyage. Maxime réfléchit et demanda prudemment. « Rien ne vous étonne dans cette requête? Tout vous paraît-il normal ?»
Gerda intervint.
« Ce n'est pas la première fois que nous partons en voyage, mon père et moi, pour ce genre de mission. Mais c'est la première fois que nous sommes espionnés par un monsieur distingué et par ses deux gorilles. »
Maxime éclata de rire.
« Non, là, vous faites fausse route. Une fois encore, vos talents d'observatrice m'étonnent, mademoiselle. Mais de toute façon, je vous jure que les deux escogriffes ne font pas partie de mes connaissances. Je donnerai d'ailleurs assez cher pour en savoir plus à leur sujet. »
Gerda Jürgensen l'observa attentivement. À la fin de son analyse, un léger papillotement de ses jolis cils signala à notre héros qu'il avait gagné sa confiance.
Les 11 jours suivants furent une véritable idylle. On se retrouvait sur le pont le matin. On contemplait les vagues, accoudées au bastingage. On déjeunait fréquemment ensemble. Maxime racontait les aventures les moins révoltantes de sa carrière et ses nouveaux amis lui parlaient de la Scandinavie et des Vikings. N'était-ce la présence des deux Hercules à bord, les trois personnages se seraient crus au paradis.
Chapitre 3. L'Institut de recherche médiévale. Arrivé à Boston, le professeur Jürgensen ne perdit pas une seconde. Il chargea son secrétaire et homme de confiance, Maxime de Chaverny, de trouver le moyen le plus prompt et le plus direct qui leur permettrait d'atteindre la ville de Saint-Paul au Minnesota. Maxime opta pour un voyage de 12 heures en train, y compris une attente de correspondance d'une heure dans une petite gare de campagne. On arriva sans encombre dans la capitale du Minnesota. Maxime et Gerda notèrent que les deux Hercules avaient disparu dès leur débarquement à Boston et s'en réjouirent vivement. Le train n'avait rien des rapides européens, mais le voyage s'effectua cependant dans la bonne humeur et le calme. Le professeur Jürgensen profita de ces quelques heures pour élargir les connaissances de son secrétaire sur l'histoire des Vikings.
La seule raison pour laquelle j'ai accepté, c'est pour faire plaisir à Gerda. La pauvre enfant s'ennuie tellement avec moi. Les voyages sont la seule distraction que je puis lui offrir. Depuis une dizaine d'années, une rumeur circule selon laquelle les Vikings auraient atteint l'Amérique bien avant Christophe Colomb. Certains prétendent que des colonies vikings auraient été fondées ici dès le Xe siècle et peut-être même avant. On note leur présence sur la Méditerranée au XIe siècle et les empereurs byzantins avaient une garde personnelle nordique comptant souvent près de 3000 hommes. Je ne crois guère à ces légendes, mais qui sait ? Si l'on regarde bien la carte de l'hémisphère nord, on s'apercevra que les distances entre le nord de la Suède et le nord du Canada ne sont pas si éloignées que cela. L'idée n'est pas absurde en soi. Qui sait, peut-être allons-nous découvrir le trésor d'Éric le Rouge. Maxime de Chaverny avait une forte prédilection pour les aventures en général et pour les trésors en particulier. Il avalait avidement les propos du professeur et les corroborait avec les propos tenus dans l'ouvrage qu'il avait acquis chez le libraire du boulevard Saint-Germain. Mais il sentait aussi frémir en lui la fibre du danger. Tout indiquait qu'il y avait anguille sous roche et que la mission qu'ils accomplissaient n'avait rien de scientifique. Il réfléchissait à cet appel de l'Institut de recherche médiévale, aux deux Hercules et surtout, bien sûr, à Gerda et à sa prodigieuse clairvoyance. Arrivés à Saint-Paul, les voyageurs se firent conduire à l'hôtel le plus proche de l'Institut de recherche médiévale. Ils envoyèrent un commissionnaire pour faire part de leur arrivée et demandèrent une audience pour le lendemain à 11 heures. Le lendemain matin, on appela un fiacre et l'on donna l'adresse de l'Institut au cocher. Maxime nota l'air étonné de l'homme à l'énoncé de cette destination. Il avait ouvert la bouche, tout surpris, puis avait haussé les épaules et avait fait claquer son fouet sans prononcer un mot. En observant ses amis du coin de l'œil, il remarqua avec satisfaction que Gerthe avait vu, elle aussi. Le fiacre s'arrêta devant un petit immeuble de 3 étages. Le professeur descendit de voiture, aidé de Maxime de Chaverny, pendant que Gerthe Jürgensen réglait la course. Un petit écriteau de cuivre indiquait que l'Institut de recherche médiévale se trouvait au 2nd étage. Il eût été difficile de se tromper, une porte unique s'ouvrant devant l'escalier. Maxime frappa. Une voix caverneuse se fit entendre. « Come in !» Le trio pénétra dans un local assez exigu et meublé du strict minimum. Un homme robuste d'une 50aine d'années se leva à leur entrée. Malgré sa barbe grisonnante et son crâne amovible, Maxime n'eut pas de peine à reconnaître l'un des Hercules du paquebot. Le colosse se présenta. Robert Fitzgerald, président de l'Institut de recherche médiévale. Il remarqua la façon dont le professeur scrutait les murs nus de la pièce, tout sauta d'un air gêné et finalement déclara. Les locaux de l'Institut se trouvent au 2nd. Nous faisons repeindre en ce moment et cela explique pourquoi je vous reçois dans ce cadre un peu insolite. Le professeur répondit complaisamment. « Mais c'est tout naturel, monsieur Fitzgerald, nous comprenons. » Le regard du président s'arrêta plus qu'il n'eût fallu sur Maxime. Gerthe eut droit à une courbette d'admiration. Une fois tout le monde installé autour de la grande table, Fitzgerald prononça le discours qu'il avait préparé longtemps à l'avance. Il y a 10aine d'années, un fermier du village d'Alexandrie labourait son champ lorsque sa charrue accrocha une grosse pierre taillée. La forme rectangulaire de cette pierre attira son attention. Il tenta de la déterrer, aidé de son fils, un garçon de 14 ans, et il y parvint à grand-peine. La pierre était profondément enfoncée dans le sol. Quand ils parvinrent à la soulever et à la porter sur la charrette du fermier, son fils remarqua des signes gravés sur la partie inférieure. Ils apportèrent la pierre à la mairie du village et montrèrent les inscriptions au maire. Celui-ci fit appel à un étudiant qui résidait dans le village. Le jeune homme déclara qu'il s'agissait de caractères chinois ou arabes et qu'il n'avait pas la moindre idée du sens qu'il fallait leur donner. On fit nettoyer la pierre et le bruit commença à courir dans la région qu'on avait trouvé un trésor. Un professeur de l'université de Saint-Peter arriva spécialement pour voir la chose et déclara qu'il s'agissait de lettres runiques en usage chez les Vikings, ancêtres des Suédois et des Norvégiens actuels. Il expliqua qu'à sa connaissance, il n'y avait pas de spécialiste de ce genre d'inscription dans la région et suggéra de faire appel à un érudit européen. « Votre réputation étant mondialement connue, nous avons pensé que le mieux était de nous adresser à vous. Je suis heureux de constater que je ne m'étais pas trompé puisque vous voilà ici. » Le professeur Jürgensen courba l'échine avec humilité et déclara « Serviteur, monsieur, où pourrais-je étudier les inscriptions? Avez-vous une photographie ?»« À mon grand regret, non. Nous devons nous rendre à Alexandrie. La pierre se trouve toujours là-bas. Le maire fait construire une petite aile spéciale qu'il appelle désormais le musée de la ville. On y trouve des petites choses assez curieuses que les gens ont ramassées dans la région. » Si vous le voulez, nous pourrons partir demain matin. » L'affaire fut conclue. L'Institut louerait une voiture où 5 personnes pourraient s'installer avec leurs bagages. À l'heure dite, la voiture du président s'arrêtait devant le petit hôtel des Européens. Le cocher cachait son visage sous un grand chapeau de paille. À ses épaules carrées et à son torse vigoureux, Maxime crut reconnaître le 2nd Hercule. On atteignit Alexandrie en 2 heures. La voiture s'arrêta devant l'auberge du Buffle d'Or, le seul établissement de ce genre dans le petit village qui comptait quelque 3000 âmes tout au plus. Après le déjeuner, le président de l'Institut de recherche médiévale de Saint-Paul emmena ses hôtes à la mairie d'Alexandrie. Le shérif fit les honneurs de son sanctuaire et tout le monde entra dans le musée. Une dent de mammouth, un alligator empaillé, un totem, une hache de pierre et une cornemuse du XVIIe siècle constituaient tous les objets exposés. Sur une grande table de bois brut trônait la pierre de Kensington, du nom de la ville voisine. Le professeur Jürgensen sortit quelques instruments d'une mallette qu'il tenait à la main. Goethe admirait les crocs aigus du crocodile prêt à la dévorer. Maxime furetait à gauche et à droite. Armé d'un pinceau qu'il avait trempé dans un liquide incolore et odorant, le professeur badigeonnait les lettres gravées dans la pierre. Elles prirent rapidement un coloris plus net et il put les observer plus attentivement à l'aide d'une grosse loupe. De temps en temps, il déposait l'objet et prenait quelques notes sur un calepin qu'il remettait vivement dans sa poche avant de reprendre ses investigations. Le président attendait, debout, les mains derrière le dos. Trois quarts d'heure passèrent ainsi. À la fin, le savant s'adressa au maire et demanda si l'on pouvait s'asseoir quelque part pour établir un procès-verbal de l'examen. Le bureau du shérif fut réquisitionné et toute la société s'installa autour d'une table ronde. Le professeur se racla la gorge, hésita longuement, puis parla d'un ton sourd, pesant chaque mot. « Nous nous trouvons devant un phénomène profondément troublant. Les lettres gravées sur la pierre sont effectivement des caractères runiques, il n'y a là pas l'ombre d'un doute. On trouve en Suède et en Norvège des pierres portant de telles inscriptions. » Le plus souvent, il s'agit de dalles funéraires qui commémorent les voyages ou les exploits du défunt. Ce n'est pas le cas ici. Il ne s'agit pas d'une pierre tombale. La chose est plus complexe, je dirais même plus mystérieuse, à double titre. D'abord, le texte gravé ne manque pas d'intérêt. Ensuite, certains particularismes me laissent un peu sceptique sur l'authenticité de la gravure. Le président eut un haut-le-corps. Qu'entendez-vous par le terme « authenticité » ? Je veux dire que certaines formules ne cadrent pas avec les affirmations du texte. Le président de l'Institut s'impatientait. Procédons par ordre. D'abord, que dit le texte ? Le professeur Jürgensen sortit son calepin de sa poche et le posa sur la table. Sur la page de gauche, il avait recopié les inscriptions gravées sur la dalle. À droite, il avait noté une traduction en français. Je ne puis affirmer l'exactitude totale de ma traduction. Certaines lettres peuvent être interprétées à double sens. Certains mots ont un emploi différent selon les régions, l'époque ou le contexte où ils figurent. Mais le tout donne à peu près les lignes générales suivantes. Il lut lentement et à haute voix. 8 étions suédois et 22 norvégiens en un voyage de découverte du Vinland à l'ouest. Avions notre camp à 2 journées d'écueil au nord de cette pierre. Avons pêché 1 jour. Retour, trouvions 10 hommes rouges de sang et morts à VM. Sauvés du mal. Avons 10 hommes près de la mer pour garder les bateaux. À 14 jours de voyage de cette île. Année 1362. Il se tut. Personne n'osait troubler le silence. Le professeur reprit la parole. Comprenez-vous, il s'agit d'un récit de voyage. Un groupe d'explorateurs vikings a pris pied non loin d'ici. Ils ont fait une reconnaissance vers l'ouest de ce qu'ils appellent le Vinland, le pays des vignes. 10 hommes qui gardaient le campement ont été massacrés alors que d'autres gardaient la petite flotte qui les avait amenés. Les lettres ont la forme runique du XIe siècle, mais le texte parle de l'année 1362, laquelle année est en outre inscrite en code pentanominal. Ce code ne semble pas avoir été inventé avant le XVe siècle. S'il était en vigueur en 1362, nous avons là un document de toute première importance. Je crois que je n'ai pas grand-chose à ajouter. Si vous m'avez fait venir pour décrypter une énigme, je crains de vous décevoir. À moins que... Le président sursauta. À moins que... Il y a bien encore quelque chose de curieux, mais je n'y attache que peu d'importance. Il montra une dernière ligne sur son calepin. A-R-I-A-T-N-A-L-X, 800 pas nord. Il se tourna vers Maxime et lui sourit. C'est mon secrétaire qui m'a fait remarquer cette dernière inscription dans un coin de la pierre, sous une couche de chaux presque millénaire. Maxime de Chaverny hocha la tête, mais garda le silence. Je ne saurais me prononcer sur le sens de ces quelques mots. Ce sont sans doute des initiales qui avaient quelque signification pour qui les a écrits. Le président remercia le shérif de son obligeance et l'équipage repartit pour le Buffle d'Or. La courte étape se fit dans un silence lugubre. Les langues ne se délièrent qu'au milieu du repas qui fut servi à la salle basse de l'auberge. Le président de l'Institut de recherche médiévale ne s'avouait pas vaincu. « J'ai de bonnes raisons de croire que l'affaire de la pierre runique cache un secret qui dépasse de beaucoup l'histoire de l'expédition. Une enquête approfondie nous a amenés à la conclusion qu'Éric le Rouge a débarqué sur la côte américaine et y a déposé un trésor il y a près d'un millénaire. C'est ce mystère que je vous ordonne de résoudre, professeur Jürgensen. » Chapitre 4. Sur la piste d'Éric le Rouge. Le président de l'Institut de recherche médiévale sembla troublé lui-même de la violence avec laquelle il avait proféré ces paroles. Maxime se tourna vers le professeur en souriant. « Allons, allons, professeur, au travail et vite. Votre commanditaire a l'air rudement pressé. »« Vous, le larbin, on ne vous demande pas votre avis !» tonitrua Robert Fitzgerald en frappant la table d'un coup de poing vigoureux. La réponse ne se fit guère attendre. Le gros Hercule émit un rugissement de douleur, se dressa d'un bond et rejeta sa chaise en arrière. Il se mit à sauter à cloche-pied tout en tenant son jarret meurtri entre ses deux énormes mains. Un œil aguerri, comme celui de Goethe, par exemple, aurait remarqué la pointe de la chaussure du baron qui avait voltigé sous la table et avait rebroussé chemin une fois le but atteint. Trois hommes de forte stature entrèrent en courant dans la petite pièce et se mirent au garde-à-vous, attendant les ordres. Fitzgerald se rassit et chercha du regard la provenance de sa douleur. Mais aucun des visages qu'il scruta n'émit la moindre surprise ni le moindre signe d'insolence ou de rébellion. Le professeur lui-même commençait à comprendre que son secrétaire providentiel n'était sans doute pas le premier venu. Le président fit signe à l'un des trois acolytes. « Prévenez Jim que j'ai à lui parler de choses importantes !» Les trois gaillards disparurent comme ils étaient venus. Le calme une fois revenu, Robert Fitzgerald reprit la parole. « Nous vous donnons carte blanche, professeur Jürgensen. Vous êtes entièrement libre de vos allées et venues. Roulez, marchez, étudiez, à pied, à cheval, en voiture, en ballon si vous voulez. Vous aurez accès à tous les documents publics et les portes des particuliers s'ouvriront devant vous si vous en ressentez le besoin. Deux mots encore. N'oubliez jamais que nous sommes un institut de recherche. Cela signifie que nous retrouvons toujours les choses et les personnes qui nous font faux bond. Vous avez exactement 15 jours pour nous apporter ici même la solution du problème. Un mot encore, cependant. Notre organisation, appelons un chat, dispose de moyens puissants et d'une fortune considérable. Nous savons remercier nos amis et nos associés comme nous savons nous occuper de nos ennemis. Malgré son expérience et son aplomb, Maxime de Chaverny sentit un léger frisson lui parcourir l'échine. Il se faisait déjà une idée assez précise de la nature et des objectifs de la respectable officine qui demandait le concours du professeur. Si on lui eut demandé son avis, il aurait émis quelques doutes sur la sincérité de l'Irlandais et sur la façon dont il remerciait ses collaborateurs occasionnels. Mais, toute réflexion faite, il garda ses sentiments pour lui et demeura de marbre, tel un sphinx, dans l'exercice de ses fonctions. Le père et la fille semblaient sérieusement décontenancés devant le changement d'attitude de leur hôte à leur égard. Après un long silence, le professeur déclara « Je comprends tout à fait la situation. Je ferai de mon mieux pour satisfaire votre curiosité de scientifique, monsieur Fitzgerald. » L'atmosphère se détendit comme par enchantement. Le gros Hercule affectait maintenant un large sourire plein de bonhomie. Il se leva esquissa une courbette ridicule devant Goethe et serra la main du savant. Maxime n'eut même pas droit à un regard.
Lundi en 15, à 16 heures, ici, la clé de l'énigme, professeur.
Je ferai de mon mieux, répéta encore une fois le pauvre homme. Un quart d'heure plus tard, on ne ressentait plus rien du passage des Hercules et de leurs acolytes. L'auberge du Buffle d'Or redevenait ce qu'elle avait sans doute toujours été, un havre de paix et de rumination. La bonne humeur revint pendant le dîner. Maxime raconta son premier voyage en Amérique, mais oublia de mentionner les menottes qui lui avaient serré les poignets pendant les quelques jours qui suivirent son arrivée avant son extradition pour la France. Il n'aimait pas faire de la peine aux autres en relatant des événements trop attristants. Il ne chercha pas à exposer ses spéculations sur l'Institut et ses dirigeants et se borna à demander l'établissement d'un plan de travail. Comme ses efforts demeuraient sans effet, il décida de prendre le contrôle des opérations. En premier lieu, il me paraît important de nous rendre sur place et d'étudier l'environnement dans lequel cette pierre a été trouvée. Ensuite, il me semble qu'il faut tirer au clair l'incertitude qui concerne l'âge des inscriptions. Enfin, il y a cette petite inscription qui ressemble à un codicille et qui mérite, à mon avis, plus d'attention que vous ne semblez lui accorder.
« Mon cher Maxime, répondit le professeur, je suis un homme de lettres et un historien, pas un limier et un détective. Ne comptez pas sur moi pour courir après Éric le Rouge 900 ans après sa mort. »
Justement, je comptais sur vous exactement pour cela, rétorqua Maxime d'un ton cassant.
Goethe jugea bon d'intervenir.
Mon papa chéri, te voilà pris en feu croisé entre l'Institut Fitzgerald et le baron de Chaverny. Rentre ta belle tête chenue dans les épaules et attends le cessez-le-feu.
Maxime se radoucit à la vue de ses grands yeux noirs et veloutés dont la candeur l'enivrait.
Mademoiselle Jürgensen a raison. Je voulais seulement exprimer mon espoir que vous mettrez votre science au service de ce grand projet.
Mon cher Maxime, je crois que nous allons aboutir à un accord. Je veux bien tenter d'en savoir plus et d'en dire plus, mais à la condition que vous m'offriez en échange vos talents d'explorateur et de fureteur.
Tu vois, papa chéri, quand tu veux, tu connais l'humanité aussi bien que le vieil Allemand décadent.
Maxime dut reconnaître que, sous ses dehors de savant fou, le professeur n'avait pas ses yeux dans sa poche. Quant à la fille, elle devait avoir déjà compris ce que Maxime avait saisi lui-même de toute l'affaire. Après le petit déjeuner, Maxime proposa une reconnaissance sur place. Le temps était au beau fixe et l'aubergiste leur indiqua la route de la ferme Oman à l'entrée du village. Olof Oman était décédé depuis 2 ans et son fils avait vendu la ferme à un nouveau venu d'Angleterre. Celui-ci se trouvait justement chez lui lorsqu'ils franchirent la petite barrière qui délimitait son lopin. Il ne fit aucune objection pour les conduire au site. Un arbre vénérable montrait ses racines puissantes. C'est là qu'Olof avait trouvé la pierre. L'homme ne savait rien de plus. Nos trois voyageurs retournèrent déjeuner à l'auberge. Maxime réfléchissait tout haut. Il y a 2 possibilités. L'histoire de l'expédition est authentique et a été consignée en 1362. Ou bien il s'agit d'un canular ou d'un récit rapporté beaucoup plus tard. Laissons de côté l'hypothèse du canular qui ne nous conduira à rien, sinon à de gros ennuis avec les frères Fitzgerald. Si l'inscription est authentique ou si elle a été rapportée plus tard, cela fait-il une différence quelconque ?
En fait, non, répondit le professeur. Nous connaissons des cas innombrables où un événement nous est connu par une source récente. L'auteur s'efforce généralement de retracer le passé en imitant la langue de l'époque. Il n'y a là rien de frauduleux ni d'illégal.
Dites-moi, cher professeur, quelle raison une 20aine de rescapés auraient-ils de nous raconter leur histoire en 1362 avant de s'embarquer pour un nouveau voyage?
Je me posais exactement la même question. Le fait même de raconter leur malheur semble indiquer la volonté de faire passer un message. Mais lequel ?
Pensez-vous que la petite ligne ait rapport à cela ?
Je ne sais.
Le savant extirpa son calepin de sa poche et le posa sur la table qu'on venait de débarrasser. Les trois convives se penchèrent sur la dernière ligne.
A-R-I-A-T-N-A-L-X, 800 pas nord.
Gerta fut la première à rompre le silence.
Les 800 pas vers le nord, cela me semble assez clair.
Certes, répartit Maxime, mais à partir d'où ?
Sans doute de l'endroit où gisait la pierre.
À condition qu'on ne l'ait pas transportée ou déplacée. Il y eut encore un long silence. Le professeur Jurgensen déclara « Les neuf lettres qui forment les trois mots A, R, I, A, T, N et A, L, X peuvent se traduire de façon diverse selon le contexte. Dans ce genre d'inscription runique, le terme A, R, I se rapporte généralement à un sage du 5e ou 6e siècle qui portait ce nom. Certains pères de l'Église l'appelaient Arius. Il représente le maître à penser des Vikings du Moyen-Âge, bien que je doute un peu de ses sentiments chrétiens. Mais le terme « Ari » peut s'expliquer autrement. Une dizaine d'inscriptions contenant ce sigle font allusion à un lion. Le terme « Ari » signifie « lion » en hébreu. Le mot « lion » n'existait pas dans les langues nordiques, car le roi des animaux se promène rarement au pôle Nord. Les Vikings avaient le choix entre le terme latin « léo » ou le terme biblique « ari » ou « arié ». Le second terme, « atn », offre encore plus de complexité. Il peut signifier « une grotte » ou encore le terme « en dessous », un peu comme « hunter » en allemand. Quant aux lettres « alx », je suppose qu'il s'agit d'Alexandrie, bien que le mot « aller » avec un X runique, peut à la rigueur passer pour le terme « cœur ».«
Richard Cœur de Lion, par exemple ?»
demanda Gerta. « Possible, mais peu probable. » Maxime proposa. « Que diriez-vous d'une petite expédition vers le nord, dans un rayon d'un petit kilomètre ?»
Gerta fit semblant de jouer les petites filles et battit des mains avec enthousiasme. Le cher papa sourit et accepta d'un hochement de tête.
Gerta se leva toute frétillante et annonça
« Je cours mettre mon chapeau et en route !»
Le comté de Douglas, au Minnesota, se caractérise par la présence de lacs nombreux, entourés par des bosquets épais où courent des petits sentiers ombragés et parfumés. Au terme de 3 heures de promenade, nos expéditeurs entraient bredouilles à l'auberge. Après un léger repas et quelques heures de repos, ils se retrouvèrent devant une tasse de thé et échangèrent des idées diverses sur la situation. Maxime demanda « Que pouvez-vous nous raconter sur cet Éric le Rouge auquel Fitzgerald a fait allusion ?»«
L'histoire ressemble un peu à un conte de fées ou à un roman d'Alexandre Dumas. Nous parlons des siècles les plus obscurs de la période médiévale. » Le père d'Éric, dont nous ne savons pas grand-chose, a perpétré un hold-up accompagné d'un massacre et a été banni du royaume de Suède et de Norvège. Il vogue vers une terre lointaine qu'il dénomme le Vinland et appelle Éric à venir le rejoindre. Celui-ci refuse car il a des objectifs politiques et financiers d'un ordre encore plus élevé. À son tour, il se livre au pillage et au carnage et se voit banni du royaume pour une période de 3 ans. Il possède sa propre milice et des fonds considérables. Il arrive à un accord selon lequel il quittera le pays pour fonder une colonie dans une île immense qu'il baptisera Groenland, le Pays Vert. Entre 980 et 990, il fonde la colonie orientale et la colonie occidentale. Ces deux groupes de villages prospèrent rapidement. La fortune d'Éric va croissant. Les champs sont cultivés, les pâturages nourrissent les moutons dont la laine est appréciée dans toute l'Europe. Il a une flotte avec laquelle il parcourt les mers connues et inconnues, accumulant les richesses. Son fils Leif s'installe dans une région très éloignée et appelle son père à le rejoindre. Celui-ci refuse. Là commence le mystère. Eric périt dans une épidémie qui décime la colonie en l'an 1010. La tradition populaire et certains passages des sagas islandaises affirment que le trésor passa aux mains de Leif. Apparemment, ce dernier le garda jalousement car personne ne le retrouva jamais. La saga norvégienne ne manque pas de récits farfelus sur des quantités d'or amassées par celui qu'elle appelle le grand héros ou le grand chantre, souvent nommé Harold le Grand. Mais ce Harold semble avoir vécu un siècle plus tard et bien loin du Groenland ou de l'Amérique. Le professeur avait terminé son récit. Maxime réfléchissait à haute voix. Le lion dans la grotte du cœur. Le lion sous la grotte. Cœur de lion dans la grotte. Sous Richard, cœur de lion. Les indications sont plutôt vagues. Je donnerai volontiers ma langue au chat. L'ennui, remarqua Gerta, c'est que le chat a perdu la sienne depuis 800 ans. Le lendemain, le professeur Jürgensen et le baron de Chaverny décidèrent de pousser plus au nord-ouest. Gerta demeura à l'auberge et leur souhaita bonne route. Les deux hommes se rendirent à un village d'Indiens Cheyennes où ils s'entretèrent longuement avec le chef. Ce dernier rapporta des légendes anciennes qui parlaient de marins intrépides aux cheveux d'or. Une autre mentionnait un cougar au cœur brisé, tapi dans une grotte au sud du lac Carlos. Mais pas l'ombre d'un trésor. Chapitre 5. Le piège. Le professeur et son secrétaire rentrèrent d'assez bonne humeur en fin d'après-midi et allèrent prendre un peu de repos avant le dîner. Ils n'étaient pas de retour depuis 5 minutes que le professeur frappait de grands coups à la porte de Maxime, le suppliant d'ouvrir. Il s'engouffra comme un ouragan par la porte ouverte et prononça dans un sanglot « Gerta a disparu !» Il tendit au baron un feuillet où l'on pouvait lire « Votre père a chuté mal et a blessé. Venir vite, j'envoie vous une voiture. » Signé Maxime. L'auteur présumé de la missive éclata de colère. « Mais c'est absurde, ce n'est même pas du français, c'est du charabia. Un enfant de 5 ans ne se serait pas laissé prendre ainsi au piège. Mais qu'a-t-elle donc à la place de la cervelle ?» Les deux hommes s'affaissèrent en même temps sur les chaises qui meublaient la petite chambre. Le professeur balbutia. « Mais que nous veulent-ils ? Que va-t-on faire d'elle ?» Maxime tentait de reprendre son calme. « Ils veulent une solution et ils font tout ce qu'il faut pour l'obtenir. Voilà des gens qui savent où le bât blesse. Mais je crois qu'ils ne lui feront aucun mal tant que leur intérêt est en cause. Qu'allons-nous faire ? Il y a 2 possibilités. La première, nous lancer dans une bataille dont les résultats sont trop dangereux pour que j'y pense sérieusement. La seconde, résoudre le mystère et échanger le trésor contre Gerta, et je vous suggère de l'adopter sans retard. Mais elle n'est pas adoptée, c'est ma fille. Je parlais de la possibilité, pas de mademoiselle Jürgensen, rectifia le baron d'un air pensif. Maxime descendit et demanda des détails à l'aubergiste. Il ressortait qu'un homme de forte stature était arrivé dans une carriole, lui avait tendu la missive pour la demoiselle et avait déclaré attendre la réponse dehors. La jeune femme avait dégringolé l'escalier et avait sauté dans la voiture sans rien dire. Elle paraissait profondément inquiète. Maxime frappa du pied. La colère le dévorait. « Si j'écris jamais mes mémoires, je ne raconterai jamais comment les gens les plus clairvoyants tombent dans les pièges les plus grossiers. C'est par trop désobligeant et inconvenant. » Il retourna auprès du professeur. Celui-ci n'avait pas quitté son siège. L'abattement semblait total. Maxime posa doucement la main sur l'épaule du pauvre père. « Je vous jure, professeur, je vous jure de faire tout ce qui est en mon pouvoir pour sauver Gerta. Dussé-je retourner toutes les pierres du Minnesota et fouiller toutes les grottes de l'Amérique ?»« Mais qui sont donc ces gens ? Vous n'avez pas deviné ? Des voleurs, des brigands. Mieux que cela, professeur, la mafia irlandaise. Tout est perdu.
J'espère que non, mais je dois réfléchir. Maxime de Chaverny garda la chambre pendant les 3 jours qui suivirent l'enlèvement de Goethe. Le professeur passait ses journées sur sa chaise, les coudes sur les genoux, la tête entre ses mains, et attendait un signe ou un miracle. Le jeudi soir, Maxime parvint à convaincre le savant de descendre dîner dans le salon de l'auberge. Tous deux avaient besoin de reprendre force et courage. L'abattement ne menait à rien. Quant à la peur, il fallait l'éviter, car elle ne faisait que paralyser ses proies au lieu de les faire agir. À la fin du repas, Maxime déclara avec le plus grand sérieux : « Je pars à la recherche de la clé de l'énigme. Sans cette clé, nous n'avons aucun espoir de revoir un jour votre fille. » « La police !»« La police de toute cette région est aux ordres des Irlandais. Il n'y a rien à espérer de ce côté. Quant à la justice fédérale, toute tentative de la contacter se solderait immédiatement par une catastrophe. Je ne veux pas risquer un malheur pour un coup de tête. » Maxime sortit et disparut dans la nuit. On ne le revit pas pendant plus de 3 jours. Le mardi matin, aux aurores, il rentra tout fripé, les yeux rougis d'insomnie et l'air harassé. Le professeur n'avait aucune nouvelle à lui fournir, mais lui-même assura qu'on progressait et qu'il avait bon espoir. Pendant le petit déjeuner, Maxime se montra plus volubile qu'à l'ordinaire. Il mangea de grand appétit et se déclara fourbu. Effectivement, il dormit d'une traite pendant près de 20 heures. Le mercredi matin, il désira s'entretenir avec l'érudit de choses graves. Maxime choisit le coin le plus reculé de l'auberge et ne commença à parler qu'après s'être assuré qu'aucune oreille ne pouvait saisir leurs propos. « J'ai découvert une grande partie du mystère. J'ai visité l'endroit où le trésor d'Éric le Rouge a été caché. J'ai la clé de la formule énigmatique gravée sous la pierre. » « Alors vous avez le trésor et Goethe est sauvé !» Maxime hésita. « Hélas, pas exactement. Je serai franc avec vous, professeur. J'ai la clé, je connais l'emplacement exact et je vais y mener nos ennemis lundi après-midi. Mais Goethe court encore un danger. Je ne peux pas préciser davantage. Toute maladresse de ma part risque encore d'aggraver la situation. Donc ne me questionnez plus et patientez, je vous en prie. » Le professeur Jürgensen baissa la tête et ne fit aucune objection. L'abattement le gagnait à nouveau. Maxime expliqua qu'il avait encore quelques points obscurs à résoudre pour mener l'opération à bon port et qu'il demandait encore un peu de patience. Maxime de Chaverny disparut à nouveau et ne revint que dans la nuit du samedi au dimanche, 1 jour et demi seulement avant l'échéance fixée par Robert Fitzgerald. Vers 11 heures du matin, l'aubergiste monta prévenir le professeur que 3 messieurs désiraient lui parler. Jürgensen alla réveiller Chaverny qui dormait profondément. À sa grande surprise, il trouva le secrétaire d'une excellente humeur. Il recommanda au professeur de descendre rapidement recevoir ses invités et de se garder de tout engagement, positif ou négatif, avant son arrivée à lui, Maxime. Il précisa encore : S'il vous propose de vous emmener voir votre fille, demandez à monter dans votre chambre pour quelque prétexte. S'il vous donne un ordre quelconque, faites celui qui n'a pas bien compris. Bref, j'arrive. » Le professeur sortit, Maxime opéra quelques exercices de décontraction, se livra à une toilette plus que sommaire, enfila des vêtements propres et se rua dans l'escalier tout en se composant le visage d'un monsieur surpris et inquiet. 3 Hercule conféraient avec le professeur Jürgensen. Le baron n'eut pas de mal à reconnaître Jim Fitzgerald sous son uniforme d'officier de la garde nationale fédérale. Le 3e homme appartenait au trio de gardes de corps en faction à Saint-Paul. Robert Fitzgerald prit la parole. « Nous nous retrouvons demain à 16 heures. Donnant, donnant, comme disent les Français. Mademoiselle Goethe contre le trésor. Pas de trésor, pas de demoiselle. Je dois encore vous mettre en garde. » En cas de tentative d'astuce, de tromperie, d'escamotage ou je ne sais pas quoi, sachez que la police locale et la moitié de l'administration et de la magistrature de ce comté nous obéissent aveuglément. Le lieu du rendez-vous sera gardé par une troupe nombreuse et aguerrie.
À la moindre incartade, plus de demoiselles. » Le professeur sombrait nettement dans le désespoir. Maxime baissait la tête en signe de parfaite obéissance. Fitzgerald se retourna vers lui. « Je comprends que le baron va proposer les modalités de l'échange. » Le baron redressa la tête, semblant sortir de profondes pensées. « Pardon ? Ah oui, bien sûr. Donc nous disons demain à 16h. »« Oui, bien sûr. » « Voyons, voyons, quand cela ? À 16h demain. » « Où cela ? Où donc cela ? Eh bien, disons, au bord du petit lac, à 300 mètres au nord de l'auberge. On ne peut pas se tromper, il y a un énorme chêne au bord de l'eau. » « Nous y serons. Mais prenez garde, monsieur le baron. Songez que je n'ai qu'un petit télégramme à envoyer pour prévenir le monde entier de l'arrestation de... Vous voyez de qui je veux parler, sans doute ?» « Oh, parfaitement. Je pense d'ailleurs que le personnage visé préférera garder l'incognito. »« Et ma fille ?» supplia le professeur. « Elle y sera sous bonne garde, donnant, donnant. » Maxime leva la main comme pour faire une objection. « Je crois qu'il faut établir plus précisément les modalités de l'accord. Je propose la procédure suivante. Nous nous rendons tous sur le site exact où se trouve le trésor d'Éric le Rouge. » Le professeur et moi passons d'abord seuls du côté opposé à cet emplacement. Deux de vos hommes passent à leur tour et se retournent face à l'objet. À un signal de M. Fitzgerald, les deux hommes prennent possession de la chose et commencent à marcher. Au même moment, deux autres de vos employés accompagnent Mademoiselle Jürgensen dans notre direction. Les deux groupes se croisent. Le trésor arrive à vos pieds en même temps que la demoiselle arrive entre nos mains. Vous vérifiez le contenu du dépôt. S'il est conforme à vos espérances, vous vous éloignez et nous sommes libres de nos mouvements au bout de 5 minutes. S'il y a un doute concernant la nature ou l'authenticité du résultat, nous revenons à l'auberge et recommençons les négociations à zéro. » Les deux Fitzgerald se livrèrent à un long conciliabule. Finalement, le président de l'Institut de recherche médiévale émit une nouvelle condition. Le professeur Jürgensen et le baron de Chaverny nous remettent une attestation dûment signée, selon laquelle ils s'engagent à se tenir à la disposition des autorités locales en cas de besoin. Chaverny répliqua : D'accord, nous signons ce papier immédiatement. Il vous sera remis de la main à la main en échange d'un sauf-conduit de monsieur l'officier ici présent. Cette dernière requête provoqua l'hilarité générale. La glace semblait brisée entre les diverses parties. Les documents furent rapidement rédigés, signés et échangés. Le baron conclut simplement « Demain, à 16h, à côté du grand chêne. » Les trois Hercules se retirèrent sans même un signe de salutation. Chapitre 6. Le lion d'Alexandrie. Le professeur Jürgensen se tourna vers Maxime. Celui-ci lisait et relisait le sauf-conduit signé par le pseudo-garde national. Il releva les yeux vers le père de Goethe. « Vous ne me faites pas confiance, mon cher Niels. » C'était la première fois que Maxime appelait son compagnon d'infortune par son prénom. L'autre s'attendrit. Cela fait près de 10 ans que personne ne m'a appelé par mon petit nom. La pauvre maman de Goethe m'appelait elle aussi mon cher Niels. » Il essuya une larme qui coulait doucement sur sa joue. « Je ne voudrais pas perdre ma fille comme j'ai perdu ma femme. » Maxime le rassura de son mieux. « Ayez confiance, la bataille ne sera pas facile, mais j'ai bon espoir. Si les événements se succèdent demain dans la direction que j'essaie de leur donner, nous avons une certaine chance de nous en sortir, Goethe et nous. Si au dernier moment les deux Hercules ou quelque autre représentant de leur organisation s'avise de changer un iota à l'ordre du jour fixé par moi, il me faudra improviser et je n'aime pas cela. Jusqu'à présent, l'ennemi n'a pas fait preuve de beaucoup de sagacité. Ces gens-là travaillent à la force du poignet et n'utilisent leur cervelle qu'assez rarement. Nous devons profiter de cette chance pour pallier notre infériorité numérique. »
Jürgensen réfléchit un moment puis demanda « Voulez-vous dire, Maxime, que vous avez la clé de l'énigme et que le trésor se trouve enfin entre vos mains ?»
Maxime éclata de rire.
« Là, vous en demandez trop, cher papa. Je vous rassurerai sur le premier point. J'ai la clé de l'énigme, du moins dans la partie qui nous intéresse ici. Quant au trésor, nous verrons bien demain. »
« Et si le trésor ne se trouve pas là où vous pensez ?»
« Le trésor ne se trouve effectivement pas là où je pense, pour la raison bien simple que je n'ai encore aucune idée de son emplacement réel. »«
Mais vous veniez de dire
que j'avais la clé de l'énigme, certes.
Alors le trésor n'existe pas ?»«
Le trésor existe, je vous l'assure, mais j'ignore totalement où il se trouve. »«
Vous m'inquiétez énormément, Maxime. Qu'allons-nous faire ?»
Nous allons remettre leur trésor à ces messieurs en l'échange de votre fille.
Dieu vous entende.
Le professeur ne ferma pas l'œil de la nuit. Par contre, Maxime de Chaverny dormit du sommeil du juste. Il renonça à proposer une promenade dans les environs lorsqu'il constata la présence d'une foule de flâneurs et de badauds aux abords de l'auberge. Par la fenêtre de la salle à manger, il montrait aux savants les bords de chapeaux qui dépassaient de derrière les arbres tout autour de l'auberge.
« Nous sommes bien encadrés, pas besoin de répandre des petits cailloux sur notre route, on nous retrouvera facilement. »
À 4h moins le quart, les deux hommes se dirigeaient vers le petit lac indiqué la veille par Maxime. À 16h précises, le convoi de l'Institut de recherche médiévale stoppait à la lisière du bosquet. Deux hommes à la puissante carrure aidaient Gerta à descendre de voiture et ne la lâchaient pas d'un pouce. La jeune femme avait l'air soucieuse, mais ne semblait pas avoir souffert de sa captivité. Elle esquissa un piètre sourire et un signe de la main en apercevant son père et son ami. Robert Fitzgerald descendit du cheval qu'il montait pour la circonstance et s'avança.
« Nous sommes à l'endroit. Où est la chose ?»
Maxime répondit avec calme. « Nous devons parcourir encore quelques dizaines de mètres avant d'arriver. J'ai oublié de vous prier d'apporter des lanternes avec vous. »«
Nous avons tout ce qu'il nous faut !»
rétorqua Fitzgerald en faisant un geste péremptoire à l'un de ses subordonnés. L'homme s'éloigna vers la voiture qui avait amené Gerta et revint quelques secondes plus tard avec un gros sac de toile dont il tira des lampes de poche électriques qu'il distribua à une dizaine d'hommes. Maxime se mit en marche tout en passant son bras sous celui du professeur. Les autres marchaient à quelques pas derrière eux. La troupe s'enfonça dans la petite forêt. Très vite, on atteignit une clairière qui aboutissait à un monticule d'une dizaine de mètres de haut. Au pied du roc, on entrevoyait l'entrée d'une grotte à demi cachée par les broussailles. Armé d'une petite machette, Maxime se fraya un chemin tout en dégageant l'ouverture des branches qui gênaient le passage. Les faisceaux des lampes éclairèrent l'excavation. Lorsque toute la troupe eut pénétré à l'intérieur, Maxime commença son discours. Comme vous l'avez tous remarqué, l'inscription de la pierre runique conte l'histoire d'une expédition qui eut lieu en 1362. On y parle d'un campement et d'une dizaine d'hommes massacrés. J'ai tout de suite pensé que le secret n'avait qu'un rapport indirect avec cette narration. Il fallait chercher le secret ailleurs. Ou, sinon dans la petite ligne codée et bien cachée des regards indiscrets. Le professeur m'a mis sur la voie lorsqu'il m'a expliqué le double sens des lettres A, T, N, la grotte et en dessous. Le terme Hari, lion en hébreu biblique, resta pour moi un mystère jusqu'à ce que j'obtienne du chef Cheyenne voisin l'explication. Il m'a parlé de cet endroit connu dans la tribu sous le nom de la grotte du cougar. Le cougar vit plus au sud et, à plus forte raison, le lion. Mais cela a suffi pour diriger mes pas vers cet antre préhistorique. Je commençais à étudier les parois de la grotte lorsque je remarquai, il montra du doigt la paroi de gauche, une couche de plâtre qui recouvrait le roc. Le temps avait fait pousser du lichen et des ronces entre les pans de plâtre moisis.
J'ai nettoyé le mur, et quelle ne fut pas ma surprise lorsque je remarquai cette chose. Maxime fit signe à deux hommes de projeter la lumière de leur lampe sur le pan de muraille indiqué. Un dessin primitif, tracé d'une encre rougeâtre, représentait une sorte de gros loup à la gueule ouverte et aux dents acérées. Les gens dotés d'imagination pouvaient appeler cela un lion. On distinguait nettement neuf lettres runiques groupées par trois sur le flanc de la bête. Maxime continua. « Les lettres runiques que vous voyez ici correspondent exactement à celles qui ornent la base de la pierre du fermier Oman. A-R-I-A-T-N-A-L-X. Nous sommes au cœur de la grotte du lion. Il faut chercher sous le lion. J'ai cherché et j'ai trouvé. » Un silence religieux accompagnait ces dernières paroles. Les brutes et les Hercules écoutaient avec un profond respect, la tête courbée. Maxime saisit une pelle qu'il avait laissée là quelques jours plus tôt et se mit en devoir de déblayer la terre molle qui recouvrait le roc sur lequel ils se trouvaient tous. Un bruit sourd se fit entendre. Maxime posa sa pelle et s'agenouilla. S'arc-boutant de toutes ses forces, il extirpa le coin d'un coffre de bois vermoulu de la taille de la pierre runique. Lorsque le coffre fut à moitié tiré de sa cachette, Maxime se redressa et fit quelques pas en arrière, tirant avec lui le professeur. Il s'adressa à Robert Fitzgerald en ces termes. « Vous avez accepté hier ma proposition concernant l'échange. Comme vous le voyez, nous nous retirons au fond de la caverne et nous ne pouvons vous échapper en cas de fraude ou d'escamotage. À vous de remplir votre rôle dans le contrat. » Fitzgerald fit signe aux deux hommes qui l'escortaient de s'avancer et de se tenir entre les deux invités et le coffre antique. Les deux hommes qui veillaient sur Gerta la saisirent chacun par un bras et la firent marcher en avant pendant que les deux autres enlevaient le coffre par les poignées latérales qui y étaient fixées. Les deux groupes se croisèrent puis s'immobilisèrent. Le professeur s'approcha de sa fille et la serra contre son cœur. Maxime intervint. « Tout n'est pas fini entre nous. Il nous reste l'épreuve suprême qui va décider de notre sort. Vous estimez-vous satisfait ou voulez-vous ouvrir le coffre ici même ?» Les deux Hercules se consultèrent à voix basse. Robert Fitzgerald annonça. « Nous ouvrons. Si le résultat ne répond pas à nos attentes, nous reprenons les négociations à zéro comme convenu. » « Bien parlé, président. Je vois que vous transpirez l'honnêteté par tous les pores de votre grosse carcasse. » L'autre haussa les épaules et fit signe à deux de ses acolytes de procéder à l'ouverture du coffre. L'émotion serrait les cœurs. Seul Maxime semblait beaucoup s'amuser. Le professeur crut percevoir que sa gaieté commençait même à gagner Gerta. Le coffre moisi résista assez longtemps aux efforts des brutes, mais finalement il s'avoua vaincu. Il émit une plainte métallique sourde et deux craquements maladifs, et le couvercle céda. Fitzgerald se courba vivement, farfouilla un moment, puis se redressa, un grand parchemin à demi déchiqueté à la main. Un cri de déception emplit la caverne. Le chef de la bande tournait l'objet dans tous les sens et demeurait éberlué. Maxime riait à gorge déployée.
Ha ha ha! Oh mon Dieu! La montagne a accouché d'une souris! Ha ha ha! Le trésor manque à l'appel! On va devoir recommencer à zéro! Ha ha ha!
Fitzgerald sortit un mouchoir de sa poche et s'épongea le front. Il fit signe à un de ses hommes de porter le parchemin au professeur. Celui-ci lut les lignes écrites, se tourna vers Maxime avec une vive inquiétude et demanda « Il faut lire ?»« Absolument. Nous avons besoin d'une confirmation de l'authenticité des propos tenus sur ce document et vous seul pouvez la certifier. » Le professeur se racla la gorge et déclara « Ce parchemin contient des lettres runiques dans une langue à mi-chemin entre le bas-allemand et l'anglais. Ce n'est pas du futhark suédois ou norvégien. Le texte se lit ainsi. « Lang Leif für der Irish Mafia. » Un juron formidable jaillit de la bouche de Robert Fitzgerald qui fit un bond en avant, les poings tendus. Au même moment, Maxime tirait violemment sur une liane qui pendait le long de la paroi de la grotte. Tout en reculant vivement, il repoussait derrière lui le professeur et sa fille vers le fond de la caverne. Les hommes de la mafia irlandaise se ruaient déjà en avant lorsque le plafond s'écroula dans un vacarme étourdissant. En quelques secondes, un barrage de rocs séparait les assaillants de leurs victimes. Des coups de feu retentirent, mais les balles ne pouvaient désormais plus rien contre les assiégés. Fitzgerald gesticulait de tous côtés en donnant des ordres contradictoires. « Attaquez ! Attendez ! Faites le tour et surveillez les arrières !» Après un quart d'heure d'un tumulte indicible, le calme revint enfin. Tous les membres de la bande avaient quitté la grotte et avaient contourné le monticule pour prendre l'ennemi par derrière. La caverne s'étendait vers l'ouest, sous un plateau dont on ne voyait pas la fin. Le deuxième Hercule expliqua à son frère qu'il devait y avoir une galerie souterraine qui aboutissait quelque part à quelques kilomètres de là. La chasse s'organisa donc dans cette direction. Au fond de la grotte, une scène bizarre se déroulait. Maxime avait distribué au père et à la fille des vêtements d'ouvriers agricoles et des perruques brunes. Lui-même s'était affublé d'un grand manteau de vacher et d'un chapeau de paille. Armé d'une pioche, il donna quelques coups dans la paroi de droite qui céda instantanément, dégageant un orifice par lequel nos trois amis s'engagèrent en pliant le dos. En une minute, ils avaient contourné l'éboulement et reparaissaient près de l'entrée de la caverne après avoir abattu la mince couche de plâtre à la pioche. Maxime jeta un coup d'œil prudent au dehors. Comme il s'y attendait, personne ne veillait de ce côté. Il prit sa course avec Gert, tous deux tenant le professeur sous les épaules, et sautèrent sur la carriole qui avait amené la prisonnière trois quarts d'heure plus tôt. Maxime, assis sur le siège du cocher, émit un léger sifflement et le cheval enleva la voiture au petit trot. Un kilomètre plus loin, ils rencontrèrent un barrage tenu par quelques policiers et quelques brutes en civil. Le professeur montra le laissez-passer signé de la main même de James Fitzgerald et la voiture passa. Lorsqu'elle fut hors de vue, Maxime donna un petit coup de fouet amical sur le dos de la rosse qui partit aussitôt au galop. 5 kilomètres plus loin, la voiture s'arrêtait sur une voie ferrée. Maxime ordonna au professeur et à sa fille de descendre et de se cacher derrière deux arbres dont les branchages couvraient les rails. Un train sifflait à l'horizon. Le chauffeur aperçut la carriole et freina son convoi. Le train s'arrêta à quelques centimètres du véhicule. Maxime faisait mine de presser sa bête et finit par dégager la voie. Il échangea une bordée d'injures avec le chauffeur qui remit sa machine en marche. Comme le convoi s'ébranlait, Maxime sautait de la carriole, enlevait le professeur comme une plume et le jetait sur la plateforme d'un wagon rempli de pommes. Gert avait suivi le mouvement et s'étalait de tout son long à côté de son père. Maxime sautait à son tour dans le wagon suivant et les rejoignit en quelques bonds. Il riait de bon cœur. Le dîner laisse un peu à désirer, mais enfin, si je vous offre le dessert que notre mère Ève a préparé à notre ancêtre, vous accepterez bien de moi ce frugal repas. Puis, reprenant son sérieux, il ajouta : J'ai prié l'aubergiste de faire livrer nos bagages cet après-midi à la gare de Saint-Peter, où nous devons arriver dans une petite heure selon mes estimations. Je vais devoir convaincre notre chauffeur de nous y arrêter, et il faudra peut-être employer des moyens un peu cavaliers. Ne m'en veuillez pas, s'il vous plaît. » Le tortillard s'arrêta en gare de Saint-Peter. À la faveur de la nuit tombante, les trois voyageurs clandestins sautèrent sur la voie du côté opposé au quai. Maxime fit signe à ses amis de le suivre. Ils rebroussèrent le chemin et contournèrent le convoi par l'arrière. Ils montèrent sur le quai et Maxime se dirigea vers un bâtiment attenant au corps principal de la gare. Il sortit un petit instrument de sa poche et crocheta la serrure d'une porte latérale. Le professeur et sa fille ne s'étonnaient plus des façons de faire du secrétaire particulier. Ce dernier referma la porte sur eux. Les malles avaient été apportées d'Alexandria. Les deux hommes se défirent des vêtements de paysans dont ils étaient affublés pour revêtir des complets européens. Gerta changea de toilette derrière un paravent improvisé et réapparut, vêtue elle aussi, d'un élégant habit d'homme. Sur l'ordre de Maxime, elle garda son épaisse perruque brune qui cachait ses longs cheveux d'or. Maxime fit encore quelques recommandations pratiques. Enfin, il saisit un chariot sur lequel il chargea les bagages et sortit le premier d'un pas de sénateur. La petite troupe entra dans la gare par la grande porte, comme des voyageurs qui viennent prendre leur train. Comme ils quittaient le guichet après avoir acheté des billets pour Boston, un agent de police leur fit signe de le suivre vers le bureau voisin. Il expliqua qu'on était à la recherche de deux hommes et d'une femme, deux Norvégiens et un Français, et demanda à voir leurs papiers. « Pierre Bouvier pour vous servir, monsieur l'agent. Mon frère Louise et notre père André. Ne le bousculez pas, s'il vous plaît. Mon papa est un peu simple d'esprit. » L'agent considéra les papiers que lui tendait Maxime et leva un regard soupçonneux sur le professeur. « Monsieur André Bouvier ?» L'autre joua son rôle à la perfection. Il sortit une longue langue rouge de sa bouche béante et se mit à bêler faiblement. Gerta lui posa gentiment la main sur l'épaule et, d'une voix de basse impressionnante, « Tiens-toi bien, papa chéri !» Convaincu, l'agent rendit les papiers à Maxime et leur souhaita bon voyage. 2 minutes après le départ du train, un groupe de cavaliers arrivait à la gare au grand galop. L'agent expliqua n'avoir rien remarqué de spécial si ce n'est un groupe de 3 voyageurs français. Le représentant de la mafia irlandaise entra dans une fureur folle. Il ordonna de télégraphier immédiatement à Boston à tous les réseaux de la police officielle et de son organisation. Peine perdue, une main inconnue avait coupé les fils. Chapitre 7. Harry, ATN, ALX. À Boston, les 3 fugitifs reprirent leur identité d'origine. La police locale recherchait 3 Français du nom de Bouvier. Les renseignements passaient encore assez mal d'un état à l'autre et nul ne songea à s'opposer à leur embarquement sur le Liberté qui repartait pour l'Europe. Une tendre intimité unissait maintenant Maxime et Gerta. Le professeur faisait semblant de ne s'apercevoir de rien, mais il éprouvait une vive satisfaction à voir sa fille de bonne humeur. Il avait deviné le nom du personnage qui se cachait derrière Maxime de Chaverny, mais ne s'offusquait pas d'avoir un voleur de grand chemin pour secrétaire. Un matin, le professeur Jürgensen nota que son sauveur semblait plongé dans des réflexions profondes. Maxime sentit ce regard posé sur lui. « Oui, professeur, je crois que l'aventure n'a pas atteint son terme. Il manque quelque chose au puzzle. Vous cherchez encore, n'est-ce pas ? C'est vrai, je cherche. Vous n'avez pas assez de connaissances ni de détails pour arriver au but, mon cher Maxime. Je le sens bien, mais vous, vous refusez de m'aider, je le vois bien. Je vous l'ai dit, je n'ai pas l'âme d'un chercheur d'or. D'un aventurier, d'un escroc, vous voulez dire ? Maxime poussa un long et douloureux soupir. « Vous avez raison, je ne suis qu'un vaurien et un voleur. Je ne mérite pas votre estime. »« Non pas, non pas, mon cher Maxime. Je vous connais assez maintenant pour savoir quel homme se cache derrière le nom célèbre que vous portez. Je sais qu'il y a là un cœur noble et généreux, un esprit courageux et secourable. »« Un bandit au grand cœur, en somme. » lâcha Maxime en soupirant à fendre le cœur. Mais qui n'est pas vilain garçon du tout, prononça une voix douce derrière le baron. Maxime sourit à la jeune femme. Ce n'est pas joli d'écouter les conversations des grandes personnes, mademoiselle Jürgensen. Gerta s'assit près de son père, en face de Maxime, et d'un ton maintenant sérieux demanda. « Qu'avez-vous fait du trésor d'Éric le Rouge, méchant garçon ?»«
Rien. »«
Comment cela, rien ?»«
Rien, il n'y a pas de trésor d'Éric le Rouge. »«
Mais ce coffre ?»«
Le coffre ne contenait rien, ma pauvre Gerta. A-t-il été vidé par quelque bandit au cours des siècles ? N'a-t-il jamais rien contenu ? Je l'ignore. »«
Alors vide, tout simplement ?»
Maxime hésita un moment.
« Presque. »«
Ah ! » s'écria joyeusement Gerta.
« Ah, rien du tout,
répliqua Maxime d'un ton bougon. Maxime, mon ami, il va falloir vous reprendre. Vous le savez mieux que moi, votre vie a atteint un carrefour et vous hésitez encore entre les deux voies. Choisissez la bonne. Allons.
Maxime demeura songeur un long moment. Enfin, il parla.
Ma chère Gerthe, tant de clairvoyance me confond. Je me croyais un as de la perspicacité. J'ai trouvé mon maître. Vous avez vu juste. Pour la première fois de ma vie, j'hésite. Mais les deux routes ne conduisent pas là où vous le pensez. Vous imaginez que l'alternative réside dans le choix entre le vol et la générosité. Non, dans ce domaine, j'ai déjà choisi, même si cela n'apparaît pas encore clairement aux yeux du monde. Non, je me trouve en ce moment dans le présent dilemme. Dois-je abandonner la partie ou dois-je la gagner pour gagner en même temps le cœur de la femme que j'aime ?
Vous êtes donc amoureux, Maxime ? Je brûle de curiosité.
De connaître l'objet ou le sujet de cet amour ?
Je vous le ferai connaître en son temps.
Il se leva d'un bond, la salua respectueusement et conclut :
D'ailleurs, j'ai choisi. Je livre bataille.
Contre qui encore ?
Pas contre qui, contre quoi ? Contre ceci.
Il tira de sa poche un petit morceau de parchemin qu'il posa sur le guéridon devant la jeune femme et s'éloigna vivement. Le professeur, qui somnolait dans son fauteuil, ouvrit un œil et observa sa fille qui examinait la relique avec attention. Il demanda prudemment :
C'est le trésor de Maxime, cette chose-là ?
D'après lui, oui. Il prétend qu'il n'y avait que cela dans le coffre.
Je devine déjà ce qu'il y a dessus. Harry, ATN, ALX.
Ni plus ni moins, mais les lettres sont gravées dans le cuir et tracées dans l'encre d'or.
Il ne nous laissera donc jamais en repos, ce garçon-là.
Un mois passa. Maxime sonnait à la porte des Jürgensen, restait pour déjeuner ou dîner et repartait le cœur dans les nuages. Il lui arrivait aussi de rester une semaine ou deux sans donner de nouvelles. Gerthe connaissait maintenant les recoins les plus cachés de sa pensée et de son cœur. Au début, il avait hésité à avouer son identité véritable et le nom de Maxime caractérisait amplement le cadre de leur relation. Cependant, aucune parole définitive ne fut prononcée de part ou d'autre. L'aventurier et la jeune femme sentaient que tout n'avait pas encore été dit. Le jour où la vérité se ferait, les mots sortiraient d'eux-mêmes. Une après-midi du début septembre, Maxime vint prendre le thé chez ses amis et annonça :
Faites vos valises, nous partons.
Pour la Grèce ?
Demanda Gerthe avec un sourire narquois.
Maxime ne s'étonna guère de la question. Lui aussi, il connaissait l'habileté et la clairvoyance de cet être adoré.
Non, très cher, non pas.
Alors pour...
Pour Venise.
Cette dernière phrase avait été prononcée avec une forte emphase par le professeur qui riait derrière Maxime.
Décidément, telle fille, tel père. Allez-y, professeur, dites-lui tout.
Le professeur Jürgensen s'assit dans son fauteuil préféré et expliqua :
J'ai beaucoup réfléchi, moi aussi, sur le bateau. J'ai compris que quelqu'un avait délibérément brouillé les pistes, soit au Xe siècle, soit au XIVe, cela n'a pas tellement d'importance. J'ai pensé que lorsqu'on veut cacher un trésor, il faut préparer une sorte d'alibi, un appât en quelque sorte. J'ai compris cela en voyant notre Maxime mécontent et soucieux. Il avait compris du premier coup, lui. « Mon cher Neil, je me parlais à moi-même, résonne à la façon de cet art. » De talent. Comment brouille-t-on les cartes en 1300 ? On fabrique un petit mystère de 9 lettres et on le cache sur une pierre, dans une grotte et enfin dans un coffre ancien. Mes réflexions m'ont d'ailleurs amené à penser que le coffre avait dû contenir l'or amassé par Éric le Rouge et que ses descendants ont jugé prudent d'escamoter le magot. Mais cela non plus n'a pas grande importance. D'ailleurs, Maxime l'a dit à plusieurs reprises, ce qui l'intéresse, c'est le secret. L'or, il en a à revendre. Résumons notre affaire. La pierre dévoile son secret apparent, pas le vrai.
et nous voilà partis les uns et les autres, les Cheyennes, les Irlandais, les journalistes et les chercheurs, tous à la recherche du lion. Notre éminent secrétaire découvre la grotte. Remarquez que j'ai quand même le mérite d'avoir identifié ce vocable dans les trois lettres ATN. Dans la grotte, il découvre le lion. Sous le lion, il trouve le coffre. Le coffre est vide. Je suppose que pendant les 3 ou 4 jours où je ne l'ai pas revu, il a consacré son temps à préparer les boulis et notre escapade ferroviaire. Mais venons-en à l'essentiel. Il nous reste maintenant le cœur du sujet, ALX. Si je ne me trompe, et malgré toutes les apparences, il n'existe aucun rapport entre les lettres ALX et le nom du village d'Alexandria. Comment un capitaine de vaisseau du XIVe siècle aurait-il pu penser qu'on donnerait un jour ce nom à une ville qui n'existait pas quand il grava son énigme sur la pierre? Donc, pure coïncidence qui pouvait dérouter des Fitzgerald, mais pas de fin limier comme nous. Je réfléchissais à tout cela l'autre jour, lorsque je notais qu'un livre de notre bibliothèque était rangé à l'envers entre d'autres volumes. Il s'agit de votre livre de chevet, mon cher Maxime, « L'histoire des Vikings ». Je l'ouvris là où vous aviez laissé votre signet. Maxime et Gerthe échangèrent un regard. Elle sourit. Tous deux savaient pertinemment que Maxime n'avait rien laissé du tout dans le livre. Le professeur continuait. On parlait d'une célèbre saga norvégienne racontant les hauts faits du glorieux Harold. La saga raconte que les Vikings ont sillonné les mers du Sud, c'est-à-dire la Méditerranée. Ces grands voyageurs étaient aussi de farouches guerriers. Les empereurs byzantins s'entouraient souvent de gardes varangiens. Alexios III en avait près de 3000. Ce nom d'Alexios attira mon attention. A-L-X. De plus amples recherches m'ont conduite à un autre lion, le lion du Pirée ou lion d'Athènes. ATN. Cette énorme statue de marbre avait été érigée par l'Empire hellénistique sur le port comme symbole de sa puissance. Malheureusement, ma pauvre enfant, il n'y est plus depuis des centaines d'années. Les combattants vénitiens l'ont volé aux Turcs au milieu d'une des guerres incessantes qu'ils se livraient les uns les autres pour le contrôle de la Terre Sainte et de Jérusalem. Les Turcs eux-mêmes avaient battu les empereurs byzantins 200 ans plus tôt. Les empereurs d'Orient avaient à leur disposition des quantités d'or faramineuses. Peut-être les Vikings avaient-ils apporté cette fortune avec eux en entrant au service des Byzantins. Quoi qu'il en soit, le trésor d'Alexios a disparu en même temps que le lion du Pirée qui se trouve aujourd'hui à Venise. Les Vikings ont-ils trahi l'empereur? Ont-ils contribué à l'escamotage du lion? La rumeur publique prétend qu'on peut reconnaître des inscriptions runiques sur les flancs de marbre blanc. Ces inscriptions, nous allons les déchiffrer. En avant. Une ovation triomphale acheva ce discours dithyrambique. Le professeur souriait d'un air modeste. Gerthe, debout, lui baisa le front. « Mon papa chéri, tu as du génie !» Maxime surenchérit. « Quel aventurier remarquable vous feriez, professeur !»
Chapitre 8. Le grand secret. Arsène Lupin ne me raconta pas les péripéties du voyage à Venise. Il n'avait rien d'un poète. Les grandes élancées lyriques l'impressionnaient, certes, mais il se sentait incapable de les reproduire. Je ne veux pas rompre le charme et tenter de retracer ici des impressions si fortes que la plume se brise en les évoquant. La ville de Venise contient des merveilles d'archéologie et d'histoire, de lettres et d'art. Cette grande république brilla par ses lois exceptionnelles et par ses faits d'armes. Peut-on juger les doges qui ramenèrent avec eux des trophées merveilleux? Doit-on rendre à la Grèce ce qui fut volé aux Turcs pendant les guerres du XVIIe siècle? Lupin n'aborda aucun de ces sujets lorsqu'il me raconta l'étrange dénouement de la saga de Gerthe, comme il aimait à nommer l'aventure. Le lecteur averti gagnera à se plonger dans ces merveilles du monde que la bêtise et la méchanceté de l'humanité ne sont pas encore parvenues à détruire. Deux jours après leur arrivée à Venise, le savant norvégien, sa fille éblouissante et le baron amoureux passaient les grilles de l'arsenal de la ville. Devant les bâtiments de briques rouges campaient les quatre lions colossaux, vestiges de la grandeur d'Athènes. Le lion assis les intéressait tout particulièrement. On pouvait voir sur son dos et sur ses flancs des inscriptions que l'œil exercé pouvait reconnaître comme runiques. Le vaillant homme de lettres prenait des notes sur son calepin pendant que les deux jeunes gens admiraient les prodigieux félins. De retour à l'hôtel, le professeur se mit en devoir de traduire les inscriptions qu'il avait relevées. On fixa le rendez-vous sous la tonnelle à 6 heures. Niels Jorgensen ajusta ses lunettes sur son nez et parla avec une grande émotion. « Il y a 2 traductions possibles. Cela dépend de l'ordre dans lequel on lit les lettres, si l'on commence par le flanc gauche ou par le droit, si l'on lit de haut en bas ou de gauche à droite. C'est un vrai code chiffré. La première possibilité donne à peu près ceci. Asmund grava ses caractères à l'aide de pierres, de couteaux, de sabres et de dents d'ivoire, à la demande de Harold le Grand, bien que les Grecs, après avoir débattu la question, estimèrent la chose comme un sacrilège. Seconde possibilité. Afi imposa un lourd impôt en raison de la révolte des Grecs. Dalk est retenu prisonnier dans une contrée lointaine. Elig est parti avec Ragnar en expédition pour la Roumanie et l'Arménie. Mais on peut lire le texte d'une façon tout à fait différente selon l'endroit où l'on coupe les mots. Ils le coupèrent au milieu de sa force. Mais dans le port au bord de la mer, les hommes gravèrent les lettres en souvenir de Orsi, le vaillant guerrier. Les Suédois l'ont écrit sur le lion. Il fut toujours de bon conseil. Il amassa de l'or dans tous ses voyages. Les guerriers l'ont consigné dans leurs gravures et l'ont écrit sur le parchemin doré. En souvenir de Orsi, ils l'ont conservé au cœur du lion. Après un long silence, le professeur Jorgensen reprit la parole. Tout porte à croire que le texte fait allusion au parchemin trouvé dans la grotte d'Alexandrie. Les expéditions, l'or amassé, tant de choses concordent. Pour ma part, mon rôle est terminé. Je vous l'ai dit, Maxime, je ne suis qu'un homme de lettres runiques, évidemment. Quand elle se retira dans sa chambre, après le dîner, Gerta trouva un petit mot de Maxime sur sa table de chevet. « Rendez-vous à 2 heures cette nuit aux grilles de l'Arsenal. » Gerta dormit 3 ou 4 heures d'un sommeil léger. Elle quitta sa chambre vers 1h30 et se trouva dans la rue sans avoir été aperçue. La ville grouillait encore de monde. Les cafés et les restaurants commençaient à peine à fermer. Le port était désert. Maxime attendait non loin de l'entrée. La serrure vétuse ne résista pas au petit outil que le baron employa pour la crocheter. Ils entrèrent en silence et refermèrent la lourde grille derrière eux. Le lion formidable les contemplait de son air altier. Maxime s'approcha de la bête de marbre et lui flatta amicalement le flanc. « Vas-tu nous dire ton secret, Brutus ?» L'intéressé resta de marbre. À l'aide d'une lanterne sourde, Maxime montra à Gerta les queues de serpents runiques gravées dans la pierre. « Les guerriers ont gravé ici leur signe de reconnaissance. Mais pourquoi insistent-ils tellement sur le cœur du lion ? Peut-être devons-nous insister sur ce point, nous aussi. » Tout en parlant, il avait sorti de sa poche un stylet d'acier. Il en introduisit la pointe dans une faille au milieu de la queue de serpent qui entourait le cœur du grand félin. Il poussa de toutes ses forces. Un déclic se produisit, et le cœur du lion tourna sur lui-même, laissant apparaître une excavation suffisante pour y passer le bras. Maxime continuait, la voix serrée par l'émotion. Ils l'ont coupé au milieu de sa force, ils l'ont gravé dans le cœur du lion, il a amassé de l'or dans ses voyages. Il extirpa des entrailles de marbre un coffret d'or. L'âge n'avait en rien terni le brillant du métal. Les mains tremblantes, Maxime tendit le coffret à Gerta et murmura « Ouvrez, c'est à vous que revient ce droit et ce devoir. » Elle ouvrit. Un diamant d'un brillant fabuleux étincela dans la nuit millénaire. Si vous le voulez, ce trésor est le vôtre. »
Goethe contempla longuement la pierre merveilleuse dans son écrin. Elle referma doucement le coffret et le reposa lentement dans son logement au sein du monstre de marbre. Maxime remit le pan de pierre en place et verrouilla le mécanisme secret.
Goethe souriait, remplie d'une émotion profonde. Elle murmura
« J'ai trouvé bien plus que cela !»
Elle lui tendit les bras.
Le lion détourna les yeux.